Europe 1.
Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui, je reçois l'historienne Cécile Berly, qui est une spécialiste du XVIIIe siècle et dont le dernier livre, « La légèreté et le grave, une histoire du XVIIIe siècle en tableau » est paru aux éditions Passé Composé. Bonjour Cécile Berly.
Bonjour Virginie.
Alors, sur votre livre, il y a une très belle image en couverture qui est celle d'Élisabeth Vigée-Lebrun avec sa fille dans les bras. Vous pouvez nous parler de ce tableau, de dire qui est Élisabeth Vigée-Lebrun et pourquoi se peindre avec sa fille est quelque chose de novateur?
Alors, Vigée-Lebrun, c'est l'un des plus grands génies de la peinture au XVIIIe siècle. J'ose le préciser, un des plus grands génies féminins de la peinture, parce que c'est quand même bien de redonner une place de premier choix à ces femmes peintres. Et il se trouve que Vigée-Lebrun a réalisé un certain nombre d'autoportraits, qui sont tous absolument magnifiques, quel que soit son âge, le lieu où elle vit. Et beaucoup d'autoportraits sont avec sa fille Julie. Et il se trouve qu'elle avait une relation assez fusionnelle avec cet enfant. C'est vraiment... Moi, j'aime à dire que Vigée-Lebrun, c'est vraiment une femme des Lumières. Pourtant, elle est évidemment royaliste convaincue, ultra conservatrice. Mais au demeurant, c'est vraiment une femme qui vit et qui agit en femme des Lumières. Et on le voit très bien dans son rapport à la maternité. Elle aime représenter sa fille sur la toile, mais elle aime aussi représenter, comme elle aime à dire, la tendresse maternelle. Donc cette fusion entre la mère et l'enfant, c'est effectivement, vous avez raison, un sujet assez novateur, parce qu'il n'est pas religieux, parce qu'il n'est pas biblique. Et c'est vraiment l'idée de mettre cette affection, ce sentiment maternel, mais aussi le sentiment de l'enfant pour la mère sur la toile. Et celui qui est représenté sur la couverture de mon livre « La légèreté et le grave », c'est celui qu'elle réalise et qu'elle rend public au cours de l'année 1789. Alors d'un point de vue politique... Exactement. D'un point de vue politique, c'est une année qui est évidemment, pour elle, comme pour beaucoup, extrêmement douloureuse, mais c'est aussi l'année d'un immense succès, une fois encore, pour Vigée-Lebrun au salon de peinture, entre autres grâce à cet autoportrait avec sa fille.
Oui, parce qu'elle est très très connue à l'époque, elle a notamment peint la reine Marie-Antoinette à de nombreuses reprises, dont un tableau qui a fait scandale, qui est Marie-Antoinette en robe de Gaulle.
Ah ben ça c'est, oui c'est plus qu'un scandale, c'est une révolution avant la révolution. Souvent je dis que le préambule de la révolution c'est la fameuse affaire dite du collier de la reine, mais le préambule eh bien c'est cette robe chemise. Effectivement, alors Marie-Antoinette n'est pas la première ni à porter cette robe, ni la première d'ailleurs à vouloir être représentée par Vigée-Lebrun vêtue de cette robe chemise, mais bon, l'histoire de cette robe, elle est absolument passionnante, fascinante, parce qu'on voit à quel point le vêtement est un marqueur de la liberté. Et j'ai envie de dire, qui plus est quand on est une femme. Et il faut bien comprendre que cette liberté vestimentaire, Marie-Antoinette est probablement l'une des premières femmes à l'avoir exercée.
Parce que cette robe, c'est une robe d'intérieur, donc en mousseline, certainement un petit peu translucide dans la réalité, qui est portée sans corset, sans panier, sans armature sous la jupe. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre, qui frôle la pornographie pour les regardeurs de l'époque.
Alors bon, très clairement, la reine est accusée d'être une femme dénaturée, contre nature, une femme qui est une mauvaise femme et qui est même très clairement taxée de femme publique, autrement dit de prostituée.
Exactement.
Voilà. On est évidemment, et je pense que Marie-Antoinette n'en est pas consciente, elle est dans un rapport de transgression par rapport aux vêtements. Pour Marie-Antoinette, la liberté est un mot-clé absolument incontournable. Sauf que de la part d'une reine de France, la liberté est une notion totalement incongrue. Et c'est bien ce décalage entre Marie-Antoinette et ses contemporains qui en fait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une icône de notre modernité. C'est cette liberté qu'on aime chez Marie-Antoinette et c'est bien ce qu'elle a payé de son vivant.
Et finalement, on voit que c'est une femme qui arrive à montrer sa liberté en peinture, puisque c'est Élisabeth Vigée-Lebrun qui la peint de cette manière. Est-ce qu'il y a d'autres peintres femmes où Élisabeth Vigée-Lebrun est une exception ?
Alors, du vivant de Vigée Lebrun, elle a un certain nombre de collègues qui sont, elles aussi, tout à fait talentueuses. Je pense à sa grande rivale Adélaïde Lamy-Guyard, mais qui n'est pas autant dans la transgression, loin s'en faut. Et puis, vous avez d'autres femmes peintres qui ont aussi connu un succès tout à fait important, que ce soit Anne Valeyer-Coster, Marguerite Gérard, il ne faut pas oublier que c'est la belle-sœur de Fragonard, peintre extrêmement chère à mon cœur.
Ah, moi aussi, j'aime beaucoup Fragonard.
Ah voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est le peintre du 18e avec Watteau. Et puis, il y a un certain nombre, je pense par exemple à Gabrielle Capet, qui a entre autres suivi des cours avec l'abbé Guyard. Et ce sont des femmes qui sont extrêmement talentueuses. Au demeurant, on les cantonne. Et elles se cantonnent à des genres qui sont encore considérés comme mineurs au XVIIIe siècle. Je pense évidemment en premier lieu à l'art du portrait ou évidemment à la nature morte.
Et oui, pas de grandes peintures d'histoire pour les femmes parce qu'elles n'y ont même pas accès en réalité.
Elles ne peuvent pas y avoir accès pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une question de mœurs et de rapport à la norme. C'est interdit aux femmes. Par ailleurs, on considère qu'une femme n'est pas forcément capable de peindre de la grande peinture. La peintre Angelica Kauffmann, qui a une réputation surtout européenne à cette époque, est tout à fait une exception, hein, qui confirme toutes les règles. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'elles n'ont pas accès aux cours dits académiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit d'étudier le nu, d'étudier l'anatomie. Donc évidemment, quand on veut peindre de la mythologie ou de la peinture religieuse, sans pouvoir accéder à l'étude du corps, de l'anatomie, c'est évidemment quasiment impossible.
Parce qu'elles sont admises à l'académie, elles peuvent y entrer, mais elles n'ont pas accès à ce type de formation. C'est vraiment, ça exclut totalement les femmes.
À l'époque du 18e, très clairement, il n'est pas possible d'étudier le nu vivant.
Et d'ailleurs, il y a une rupture parce que, mine de rien, il y a des carrières féminines, comme vous venez de le dire, mais pendant la Révolution française, l'Académie royale de peinture devient une académie républicaine qui ferme définitivement ses portes aux femmes. Alors, est-ce que la Révolution détruit les carrières des femmes peintres ?
Oh, pas que des femmes peintres. J'ai envie de dire que la Révolution, qui a été évidemment un immense espoir pour un certain nombre de femmes, il y a aussi beaucoup de femmes, qu'elles soient peintres ou non, qui ont dès le départ rejeté en bloc cette Révolution, qui était pour elles l'œuvre du diable. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes, bien sûr, qui ont eu un immense espoir avec les premiers temps de la Révolution. Plus globalement, c'est quand même les femmes qui vont occuper cet espace public, et j'insiste parce que l'histoire c'est tout sauf le passé, et ces femmes qui vont occuper cet espace public, c'est ça qu'on va leur faire payer. Alors dans un premier temps, on va quand même leur accorder quelques droits civils qui sont des droits tout à fait importants.
D'ailleurs, Vigée Lebrun va pouvoir divorcer de son mari grâce aux droits civiques accordés aux femmes.
Alors du moins se séparer, il y a une véritable séparation de corps et de biens. Jamais le divorce ne sera par ailleurs prononcé, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que par exemple, la question des droits politiques n'est pas une question tout simplement qui est débattue au cours de la Révolution. On peut le dire, hein, dans un premier temps, les femmes sont dans une illusion et sont en quête évidemment d'un certain nombre de libertés, d'aspirations, etc. Et puis, l'histoire des femmes, pour moi, avec la Révolution, se termine à l'automne 1793, où très clairement, on leur fait comprendre qu'elles n'ont pas de place dans cet espace public. D'où les grands procès féminins, que ce soit une Marie-Antoinette ou des femmes de lettres comme Olympe de Gouges, Madame Roland, où très clairement, on explique qu'on les punit sévèrement, mais c'est pour le bien des femmes.
Des sujets qu'on réabordera à l'occasion dans Au cœur de l'histoire. Donc on voit que finalement, on n'aime pas trop que les femmes aient des carrières, soient peintres, parce que finalement, leur vraie place, c'est celle de muse, c'est celle d'égérie. Parlez-nous un petit peu d'un tableau qui s'appelle l'Odalisque. L'Odalisque nu.
Ah, une des très nombreux, un des plus beaux nus, et parmi tous les nus qu'a pu faire François Boucher, qui est aussi incontournable évidemment dans une histoire de l'art du 18e.
Peintre sous Louis XV notamment.
Bien sûr, et qui a été le peintre favori de Madame de Pompadour, il faut pas l'oublier. Et alors François Boucher ne peint pas ses nus du tout pour qu'ils soient vus.
Et oui, parce que c'est ça le truc.
Et il y a une ambiguïté qui est évidemment savamment créée aussi bien par le peintre que par le ou les commanditaires. L'idée, c'est de montrer évidemment des nus qui ne sont tout sauf mythologiques, qui sont très clairement des nus pornographiques.
Parce que le nu à l'époque peut être mythologique, ça, ça passe très bien dans les salons puisqu'on a un prétexte. Par contre, si on montre une vraie femme nue, là, on glisse vers la pornographie.
Et on ne fait pas que glisser, on atteint la pornographie. Comme j'essaye de le démontrer dans le livre, la pornographie telle que nous l'entendons, telle que nous la connaissons, elle est vraiment née, pour moi, au cours des premières décennies du XVIIIe siècle. Et Boucher va, entre autres, aussi exceller dans cet art de montrer la pornographie, parce que cet odalisque nu, faut quand même le dire, c'est très clairement, l'expression n'est pas de moi, c'est quand même un appel à la sodomie.
Bon, attendez, maintenant il faut que les auditeurs l'aient dans l'œil, donc il faut imaginer une jeune fille allongée sur un lit sur le ventre, qui regarde la personne qui regarde le tableau, et qui est soit nue, parce qu'il en existe plusieurs versions, soit qui a sa chemise relevée au-dessus des reins.
Exactement, et on peut même dire que son fessier est le point central du tableau. Donc, une grande partie de son corps est couvert, parce que c'est aussi toute l'ambiguïté de ce que l'on montre et de ce que l'on cache au XVIIIe siècle. On peut montrer quasiment sa poitrine, mais on ne montre pas ni ses jambes, ni par exemple ses pieds. Mais effectivement, là, la focale de ce tableau, c'est très clairement des fesses qui sont incontestablement offertes. Donc c'est aussi une façon, évidemment, c'est du porno, ce qu'on appellerait un peu aujourd'hui, osons l'anachronisme, du porno un peu chic, mais qui n'était assumé que par une petite élite, évidemment, et une élite essentiellement parisienne au XVIIIe siècle.
Donc les tableaux de ce type ne se montrent quelque part que dans les salons entre amis, un peu sous le manteau.
Elle se montre dans une géographie qui est encore beaucoup plus intime que le salon, qui va être le cabinet, le petit cabinet, voire l'arrière-cabinet, c'est-à-dire les lieux où on développe ce qu'on appelle au cours du XVIIIe siècle la vie intime, c'est-à-dire la vie qu'on ne peut en aucun cas montrer. Et évidemment, dans cette vie intime, la part y est belle pour la sensualité, la sexualité, et souvent, il faut le dire, une sexualité qui serait plutôt débridée.
Alors, si vous deviez résumer ce qui fait la particularité de l'art du 18e en tableau, qu'est-ce que vous nous diriez ?
Ouh là là, c'est une question difficile. La particularité, pour moi, c'est probablement en premier lieu l'exaltation de tous les sens. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai les acteurs, vraiment les chapitres et les acteurs de ce livre, c'est pas les peintres, c'est vraiment leurs chefs-d'œuvre, les œuvres iconiques du 18e, parce que je crois que c'est vraiment, pour la première fois dans l'histoire, c'est au 18e qu'une peinture vraiment montre une société à la fois dans toute sa complexité, dans toute sa beauté, dans tous ces aspects aussi les plus dramatiques, voire les plus sordides. Et c'est vraiment ce sont autant de clichés, en fait, d'une société dans tous ses mœurs et dans toute sa sensibilité. Je pense que on ne pourrait pas faire le même livre avant le XVIIIe siècle. Il n'y aurait pas d'œuvre à ce point iconique. C'est-à-dire que quand je parle d'œuvre iconique, c'est-à-dire d'œuvres du XVIIIe qui font profondément encore aujourd'hui partie de notre imaginaire collectif. Et ça, c'est vraiment né avec le XVIIIe. C'est l'exaltation des sens.
Exactement, l'exaltation des sens qui font un peu la quintessence de cette peinture du XVIIIe siècle. Merci Cécile Berly, votre livre La légèreté et le grave, une histoire du XVIIIe siècle en tableau, est paru aux éditions Passé Composé. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés, retrouvez-nous sur votre plateforme de podcast préférée et mettez-nous des étoiles, nous ça nous fait plaisir. À bientôt au cœur de l'histoire.